Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Sa passion, c'est la langue française. Alors c'est normal, ici même, sous la coupole, de se retrouver autour de cette passion avec vous, Axel Mauget. Bonjour.
Bonjour.
Alors, désir francophile, désir francophone. J'inverse le titre, là ?
Oui, il me semble.
C'est volontaire, mais... peut-être pas.
Non, mais je pense que la francophilie n'est jamais assez connue.
Et pourquoi avez-vous mis les deux dans le titre, francophile et francophone ?
Bah, je crois que ça se tient tout en étant extrêmement différent. Et la francophonie, on en parle depuis quand même plusieurs décennies. C'est un mouvement immense qui regroupe, je crois, à peu près 63 pays aujourd'hui. C'est donc considérable. Vous avez pas loin de 300 millions de personnes, sans trop exagérer, qui utilisent notre très belle langue. Et le fond, la richesse est encore beaucoup plus importante. Et pourquoi francophilie ? Parce que je crois que accolé à la francophonie, vous avez quand même beaucoup d'intérêt. Et du côté de la francophilie, pourquoi pas d'ailleurs qu'il y ait des intérêts, mais du côté de la francophilie, il y a beaucoup une passion, je dirais une générosité aussi très forte.
Alors la francophonie, c'est donc un état un peu géopolitique des choses. La francophilie, c'est la nuance que vous y apportez, c'est à la fois l'intérêt suscité par le français, c'est une histoire d'amour entre le français et la planète.
Ah, totalement. Voilà. Totalement, et cette histoire d'amour. Alors, à combien pouvons-nous chiffrer les francophiles ? C'est très difficile à faire. Ça serait possible, il serait possible de le faire. Mais j'avoue que c'est difficile. Mais ce sont des millions et des millions de personnes qui, pour les uns, relisent Proust avec une joie immense. D'autres, ça va être Céline le Sulfureux, un troisième Victor Hugo, un quatrième Montaigne. Et ce qui est extraordinaire, juste un tout petit exemple, des francophiles américains, sur les francophiles américains, vous avez les deux auteurs préférés des francophiles américains, ce sont justement Proust et Céline.
Vous êtes universitaire, écrivain, essayiste, vous êtes spécialiste du fait français, dans le monde et du dialogue des cultures, vous donnez des conférences un peu partout sur ces questions. Vous avez reçu, vous venez de recevoir, un grand prix de l'Académie française, médaille de Vermeil, pour l'ensemble de votre œuvre. Est-ce que Désir francophone et Désir francophile, aux éditions Lettres du Monde, est-ce que cela vient couronner tout un travail ?
Ben, je crois que oui, parce que au départ, nous n'étions pas si nombreux que ça à travailler sur ce sujet, à aimer ce sujet de francophonie, francophilie. Je pense que le couronnement, je ne parlerai pas de couronnement napoléonien, bien entendu pas, mais je crois que Désir francophone, Désir francophile marque une date dans mes travaux, car j'ai d'autres travaux qui vont sortir bientôt. Je pense que c'est un hommage de ceux qui ont aimé ce livre et qui me fait extrêmement plaisir. On peut le prendre comme un couronnement. Moi, je crois, vous savez, que nous restons, comme Tchekhov l'a dit, un éternel étudiant. Et je crois que celui qui se croit arrivé, couronné, est déjà fini. Donc j'espère ne pas être couronné totalement, si vous voulez. Mais disons, c'est un hommage que j'apprécie infiniment.
Donc ce prix de l'Académie française, vous le prenez comme une étape dans votre longue carrière universitaire et dans votre goût pour le français, votre passion que vous exprimez, que vous écrivez.
Ah, tout à fait. Et je pense que ça me donne même une, vous savez, comme à tout un chacun, une énergie nouvelle qui nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes. Et ça, c'est quand même très important. C'est que le prix, il ne faut pas le prendre uniquement pour soi-même, même s'il nous réjouit, mais pour tous nos amis, tous ceux qui vraiment militent pour le dialogue des cultures. Car au fond, si je défends le français dans le monde, en France même et dans le monde, c'est au nom du dialogue des cultures, parce que le français, c'est une merveilleuse porte ouverte sur l'espace de l'humanisme et sur, sans être éthéré, si vous voulez, sans être trop idéaliste, sur les réalités de la culture. Et je crois que le danger chez nos amis américains, c'est le danger, ils s'en rendent compte d'ailleurs eux-mêmes, l'utilitarisme. Du côté français, on est parfois... On manque un peu d'efficacité, encore que ça change vite maintenant, mais le côté culturel est très important.
Je parlais de couronnement tout à l'heure, vous êtes assez discret quand même sur vous-même, alors qu'on vous a déjà présenté comme le Raymond Aron de la francophonie.
Ça, c'était très aimable à un monsieur qui un jour a sorti cette formule, un monsieur qui s'appelait, je crois, Yfed Boissé. Je l'ai pris bien parce que Raymond Aron est un homme indépendant qui n'était pas à la mode. Et je crois qu'être à la mode, ça veut dire que demain matin, on a oublié la robe, c'est dans les oubliettes, etc. Sauf peut-être celle de Marie-Antoinette ou de quelques personnages historiques. Je crois qu'il ne faut pas être à la mode, même si ça fait bien, ça fait chic. Je crois que la culture, avec un grand C, c'est toucher au cœur même de l'esprit humain, des grandes réalités humaines. Et donc, être à la mode, je m'en fiche franchement complètement.
À défaut d'être à la mode, Axel Mauget, mettons-nous quelque peu en scène. Si vous étiez, par exemple, là, puisque à l'heure où nous parlons, c'est bientôt le sommet de la francophonie à Bucarest, ce soir, si vous étiez à la tribune, quels seraient vos premiers mots ?
Bien, je crois de... Vous savez, la tribune serait politique. Moi, je suis culturel. Ni économique véritablement, encore que...
Ah, tout est un peu lié quand même.
Tout à fait. Là, vous avez raison, je ne veux pas non plus être dans ma tour d'ivoire, et ça vous avez tout à fait raison, le côté pluridisciplinaire est extrêmement important, Edgar Morin ou d'autres l'ont bien montré. Ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'il faut surtout connaître, voilà, je crois que c'est nous connaître les uns les autres, et j'irai vers... une demande de multiplicité des débats. Je crains que ce genre de sommets, qui sont essentiellement politiques, c'est bien, d'ailleurs ça fait progresser les choses depuis le premier sommet de Paris de 1986, mais c'est trop, tout est un peu trop préparé d'avance, si vous voulez. Donc le repas est déjà cuisiné, je le regrette un petit peu à ce niveau-là, même si de bonnes choses arrivent de temps à autre. Je demanderai plus de spontanéité, plus de paroles libres, on rejoint Raymond Aron, plus de aussi de pragmatisme parfois. Et je pense que dans le domaine de la francophonie, on a souvent pas assez offert de pragmatisme.
C'est-à-dire,
par exemple, comment se fait-il que l'on n'ait pas multiplié dans le monde, et d'abord en France, les chaires, par exemple, sur la francophonie? En France, il y en existe deux. Une qui, je crois, est un peu fatiguée. Une en Sorbonne qui continue sur son petit chemin, etc. Il en existe, en revanche, beaucoup plus de 10, 15, 20, 30 aux États-Unis, en Allemagne, voire en Italie. Donc, ce qui est assez curieux, c'est que nous nous privons, ça rejoint un peu par d'autres voix, le film indigène, nous nous privons d'une richesse énorme, mondiale, si vous voulez. La francophonie, c'est un des poumons du fait français dans le monde. Nous avons aussi le fait français dans les Antilles. Nous avons tous les francophiles. Bref, nous nous privons de beaucoup de choses. Et je crois que ces sommets de la francophonie devraient nous permettre de, surtout, d'aller dans un sens comme Saint-Exupéry, vraiment sur le même chemin, mais pour ça il faut débattre. Et pour débattre, et ce qui manque vraiment à la francophonie, ce sont, moi je trouve encore aujourd'hui, même s'il y a eu de beaux efforts avec Boutros-Boutros-Ghali, Monsieur Abdou Diouf, qui sont des gens de qualité, des sages, et ça a progressé, hein, mais ça manque de débat. Si vous voulez, trop souvent, étant un indépendant, j'ai vu des chasses gardées. Et je crois des chasses gardées, des forteresses, des bastions, des châteaux. Vous voyez, est-ce que le Liban sera là, ne sera pas là? Bon, très bien, ça vous direz, c'est conjoncturel. Ce qu'il faut vraiment, c'est que nous allions de l'avant dans de vrais débats, que des personnalités. C'est ce qui se passe, c'est que pour rejoindre le sommet de la francophonie, c'est trop institutionnel. C'est-à-dire que, étant trop institutionnel, on laisse de côté les militants de la francophonie, je fais partie de ces militants-là, c'est trop bureaucratique. Et c'est il en faut de la bureaucratie, mais c'est trop bureaucratique. Vous connaissez la France, vous connaissez notre délicieux pays, notre cher pays, il y a trop de bureaucratie. Et il faudrait que davantage, par exemple, quelqu'un qui connaît bien la bureaucratie, mais qui est quelqu'un de très ouvert, très intéressant, qui a renouvelé un peu les idées, qui a donné beaucoup d'idées récemment, c'est Dominique Volton. Par exemple, là, nous avons là une des personnalités avec Maurice Druon, formidable défenseur de la francophonie, avec Stelio Farangis, qui a servi pendant 20 ans Mitterrand, puis Chirac, etc., avec le Haut Conseil de la francophonie, Alain Decaux, d'autres aussi, chacun avec leur voix. J'oubliais Claude Agey, j'oubliais Marc Fumaroli, et tant d'autres. Là, mais ces gens-là, on ne les écoute pas assez. C'est un peu, je dirais, le monde de l'université qui est un petit peu... on oublie de lire les travaux faits par de grands universitaires. Et ça, je le regrette. C'est-à-dire que les politiques ne s'en inspirent pas assez, même s'il s'en inspire tout de même un peu.
Si je vous suis bien, Axel Mauget, la francophonie est en quelque sorte un peu prise en otage par des considérations d'ordre politique. C'est un peu l'antichambre d'une diplomatie française, voire d'une diplomatie africaine. Et que ça devrait bien sûr s'ouvrir aux quatre vents de la francophonie qui sont beaucoup plus divers, alors avec les universitaires, avec tous les militants qui ne se sentent pas forcément représentés par cette institution.
Là, je crois que vous avez tout à fait bien cerné le problème et vous, étant un homme concret, même si mes idées sont tout à fait des idées humanistes, donc remontent aux Grecs, à tout ce que vous voulez, mais le concret, c'est très important. Tout à l'heure, je parlais de la nécessité de créer des chaires de francophonie. Ça, c'est une réalisation tout à fait possible.
Concret. C'est concret.
Il y a des tas d'autres possibilités, si vous voulez, dans le domaine de la francophonie et il faut absolument qu'ensemble nous allions de l'avant pour des projets toujours plus concrets.
Alors même, si vous le voulez bien, souvenez-vous du sommet, je crois, à l'île Maurice en 93, qui est apparu à ce moment-là la notion d'exception culturelle qui a fait son chemin.
Ah, tout à fait.
Donc du politique, on a bien débouché sur des choses assez concrètes.
Oui,
puisque la France a pris
ça,
des dispositions en la matière.
Là, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas seulement se préoccuper des militants qui parfois ne donnent pas assez leur point de vue ou qu'on n'écoute pas assez. Je crois que le phénomène de l'exception culturelle est quelque chose d'extrêmement important car la France, qui, soyons nets, avait perdu du terrain dans les années 80-90, je vais d'ailleurs le montrer dans un nouvel essai qui paraîtra dans quelques mois, la France avait vraiment perdu du terrain et Mitterrand tout de même avait permis cette tenue du premier sommet en 86. Mais à partir de 2001, il y a vraiment, 2001 est une année extrêmement importante, hélas, c'est la terrible tragédie américaine, mais elle montre les limites du phénomène américain et la nécessité justement d'autres visions du monde, dont celle de la francophonie. Et l'exception culturelle qui jusqu'à présent faisait sourire, même encore aujourd'hui, le français se porte bien dans le monde, ça fait sourire beaucoup de gens, ils ne connaissent absolument pas la réalité des choses, et ça c'est vraiment stupéfiant de voir l'ignorance même de certains essayistes. Mais pour revenir encore à l'exception culturelle, je crois que la France a réussi cette chose formidable à l'UNESCO, notamment, je crois que c'était en 95, 21 octobre 95 si ma mémoire est exacte, vous avez, grâce à la France, grâce à la francophonie, on se tourne vers le pluralisme, vers le plurilinguisme, on essaie, et vers surtout cette notion de diversité, d'équité et d'équité culturelle. Enfin, on tend vers une certaine équité culturelle. Et ça, je crois que c'est d'une importance capitale. Donc, les Américains qui ne nous écoutaient pas, il y avait des rapports secrets qui ne sont plus aujourd'hui, mais qui montraient que la France, le français en Europe avait perdu la bataille vers 2005. Là, il y a une erreur, il y a un coup d'arrêt, parce que si vous voulez, hélas...
Quand même, à l'échelle européenne, on parle anglais. Hein. On le sait, hein, dans tous les documents,
non, alors,
en anglais.
Je vais vous donner des chiffres. Vous avez raison de dire que nous avons perdu du terrain et que nous sommes attaqués de façon permanente. Mais les chiffres, je vais vous donner des chiffres assez extraordinaires, c'est que la langue qui est le plus parlée par le plus grand nombre d'Européens, je parle de l'ensemble des populations, c'est l'allemand avec 21,3, je crois, à 1% près, c'est l'allemand. Suivi par le français 16%, l'italien 16%, l'anglais 15,9% et l'espagnol, je crois, 10%. Mais alors à cela, maintenant, corrigeons. Alors vous allez dire, oui, c'est très beau sur les chiffres réels des locuteurs. Mais par contre, dans le monde des affaires, qui parle quoi ? L'allemand est parlé par 10% des gens d'affaires, l'anglais à 40%, le français tout de même à 19%, donc il progresse.
Quand même.
Il progresse 19%, donc il progresse légèrement, l'allemand...
dans le monde des affaires. Là.
Dans le monde des affaires, ça serait donc 40% pour l'anglais, 19% pour le français, 10% pour l'allemand, 3% pour l'italien. Alors c'est là où on voit le français... est toujours en deuxième position. Souvent, pas toujours, mais souvent loin derrière l'anglais, pas toujours, mais il est toujours en deuxième position. Donc, parler, on n'est quand même pas l'avant-dernier. On est en deuxième position. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les chiffres. À l'ONU, on utilise beaucoup plus le français que l'allemand, beaucoup plus le français que le russe, beaucoup plus... Voilà. Même en Europe. En Europe, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a eu l'arrivée de nombreux autres pays et les Français qui sont finalement, qui sont parfois arrogants et souvent assez modestes, c'est assez curieux ce mélange d'arrogance et de modestie,
c'est vrai.
Ne défendent pas beaucoup leur langue. Ils n'ont pas beaucoup défendu leur langue.
C'est très
Europe.
Paradoxal, effectivement.
C'est très paradoxal.
Est-ce qu'on peut l'expliquer, ça ?
Oui, je pense que vous avez cette, à la fois, c'est vraiment toute l'identité française. La France, on s'en rend compte lorsqu'on gratte un petit peu, si vous voulez, beaucoup de gens ne grattent pas, mais lorsqu'on gratte un petit peu la peinture, qu'elle soit défraîchie ou pas, reste un pays, une référence mondiale. Du Népal aux États-Unis, de l'Argentine au Congo, ça reste une référence mondiale.
Vous avez d'ailleurs écrit sur l'Argentine.
Oui, un livre qui est un livre que j'aime beaucoup, je dois dire, s'appelle Les élites argentines et la France. Un livre qui a un côté magique, si vous voulez, grâce aux Argentins, d'ailleurs, je dois le dire. Et alors, cette France reste une référence mondiale et en même temps, parfois, nous sommes un peu maladroits, donc on en fait peut-être un petit peu trop, et souvent, on n'en fait pas assez. Regardez dans le domaine universitaire, les Américains sont absolument pas modestes, même s'ils ont de grandes universités, de grands départements même de français, ils ne sont pas modestes. C'est tout le temps, je suis le meilleur, on joue avec les bretelles, si je me permets l'expression. Et en France, nous sommes modestes. Nos universités, dans l'ensemble, on n'en parle pas trop, ça végète, alors qu'il y a des esprits, des jeunes chercheurs qui sont lumineux, qui sont souvent d'ailleurs engagés par les États-Unis ou par d'autres pays, mais il y a une modestie française qui est un peu inexplicable, mais c'est cette vieille Europe qui a tant de charme, il faut bien aussi le reconnaître.
À tout de suite, Axel Mauget.
Bonjour, c'est Hélène Renard, je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission « Au fil des pages ». L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Éclairage avec Axel Mauget qui vient d'être décoré par l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre au service du français. Il a reçu la médaille de Vermeil, Désir francophone, désir francophile aux éditions Lettres du Monde. Un essai à suivre, La bataille du français, c'est votre prochain ouvrage. Ça traitera du français depuis les années 60 et la bataille que livre la francophonie pour se maintenir. Axel Mauget, vous êtes un spécialiste du fait français dans le monde, vous êtes un spécialiste du dialogue des cultures, de la francophonie. Est-ce que les Anglais ne s'y prennent pas beaucoup mieux que nous pour défendre leur langue ? Est-ce qu'il n'y a pas une cohérence dans la politique qu'ils mènent, une cohérence entre la politique et la défense de la langue, avec le Commonwealth en particulier ? Et la France ne souffre-t-elle pas d'un cloisonnement entre le français et sa politique étrangère ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est une vision du monde qui est très différente. Et nos amis, vous comprenez bien, quand je parle de la France, je ne fais pas du tout d'anti, et du français, je ne fais pas du tout d'anti-américanisme, même si eux c'est eux, nous c'est nous. Donc on ne nous marche pas forcément sur les pieds, il faut bien le dire. On n'aime pas ça. Mais n'oublions pas que nos amis anglo-américains ont de très grandes qualités, et notamment le pragmatisme. Ce sont des gens pour qui l'efficacité, c'est le règne. Ce sont des gens pour qui le présent est d'une importance capitale, ce qui se fait au présent. Nous transportons toujours un peu notre passé. C'est à la fois un handicap et un charme, parce que les études historiques, quand même, pour voir l'évolution du monde, c'est quelque chose de considérable. Les études philosophiques, nous en avons beaucoup. Aux États-Unis, c'est quand même moins porté, moins apprécié, encore qu'il y a eu la French Theory. Mais vous avez tout à fait raison. Ces messieurs anglo-saxons, ces personnes anglo-saxonnes, elles ont un projet qui est un projet d'utilitarisme, si vous voulez. C'est un projet de conquête du monde au niveau des marchés. Mais alors, on peut ne pas partager. Je crois que nous retrouvons là la France avec la francophonie, avec la valse hésitation. Nous craignons d'importuner, nous craignons le néocolonialisme, nous craignons beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est de la faiblesse, est-ce que c'est de la modestie, c'est peut-être aussi, c'est un peu tout cela, mais c'est aussi un manque de stratégie. Je pense que nous, pays de génie, soyons très francs, nous avons commis beaucoup d'erreurs, mais pays où il y a des gens absolument géniaux, il y a eu une histoire extraordinaire, d'ailleurs, regardez autour. Sans vraiment vouloir nous cirer les chaussures, c'est une très très belle histoire. Mais en même temps, nous oublions les stratégies. Moi, ce qui me surprend énormément, c'est de voir dans le domaine de la francophonie, justement, c'est le manque de stratégie. Il n'y a pas eu beaucoup de stratégies vraiment très élaborées, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis 30-40 ans. Alors attention, un livre dont on devrait davantage s'inspirer, qui n'est pas l'un de mes livres, mais qui est un livre de Gabriel de Breuil de l'Académie française, « Le français pour qu'il vive », ça, moi, je trouve que pour ceux qui aiment le français, c'est une bible, avec quelques autres ouvrages, les ouvrages de Claude Agege, les ouvrages de Marc Fumaroli, les ouvrages de Maurice Druon, les ouvrages de Silvio Farangis, voyez, je reviens à ce petit groupe, les ouvrages de Dominique Volton, mais enfin, ils sont tous un peu différents, mais avec notre...
Mais en ordre dispersé.
Mais en ordre, tout à fait. Et il ne se... On a l'impression, si vous voulez, moi qui, justement, dans mon prochain livre, je fais l'histoire de la bataille du français de 1960 à aujourd'hui, eh bien vous apercevez qu'on a l'impression que nos hommes politiques, voire même nos hommes de culture, sauf exception, ne retiennent pas les idées fondamentales pour mieux les développer un peu plus tard. Et ça, je suis très surpris. J'ai un exemple concret. J'avais écrit un livre, je crois, en 87, La francophonie en direct, deux tomes, dont la première fois, il y avait un tome économique, c'était une première, qui avait été très apprécié par l'ambassadeur en charge à l'époque, Jacques Leprêtre, à qui François Mitran avait demandé d'agir, et il a vraiment agi de façon remarquable. Et les personnes proches de Jacques Leprêtre disaient à l'époque, oui, il y aura un premier sommet, ça sera le premier et le dernier. Donc vous voyez, tout à fait le climat à ce point. Et c'était des diplomates français qui ont dit ça. D'abord, je tairai le nom, mais c'est connu, on trouve les noms, etc. Mais donc, vous avez véritablement, dans ce domaine de la francophonie, un manque de stratégie et de mise en place, avec quand même de belles réalisations. Il y a eu de belles réalisations, c'est vrai. TV5, bien d'autres choses, l'université dans le domaine Lopel-Furev, l'AUF, etc. De belles réalisations. Mais moi, ce qui me frappe en tant que militant indépendant de la francophonie, c'est de voir à quel point on a négligé la structure, je dirais, j'oserais dire, comme une tour Eiffel, qui monte et on bâtit décale après décale. Là, oui, nous bâtissons, mais peut-être de façon un peu désordonnée. Voilà, c'est ce que juste je voudrais dire. Je ne veux pas critiquer pour critiquer, mais n'oublions pas quand même la formule de Beaumarchais, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Et c'est quand même important de rappeler Monsieur de Beaumarchais au cœur de tellement de choses.
Axel Mauget, donc désir francophone, désir francophile. On a vu en début d'entretien la nuance que vous faisiez avec tout cela. Vous développez une vision plutôt très positive quand même du français, de la présence française dans le monde. Vous ne gémissez pas sur le français?
Oh, pas du tout. Parce que, si vous voulez, connaissant bien le Québec, que j'ai connu en 1964, donc j'avais 18 ans, pour ne rien vous cacher, eh bien, ce Québec, qui était vraiment un autre monde, croyez-le, je me suis fait une fois insulter parce que je demandais le journal en français, et on m'a même dit à l'époque « speak white », c'est-à-dire « parle blanc ». Parce que je parlais le français, Donc, autant vous dire qu'arrivant de Paris et aimant Versailles, c'est assez un choc, c'est un peu douloureux même, je dirais. Et je me souviens aussi d'un grand poète sur qui j'ai écrit, qui s'appelle Gaston Miron, le Césaire, le Sangor québécois, un grand monsieur, décédé hélas déjà. Mais ce monsieur disait, parce qu'il y avait un peu les régionalistes québécois avec le joual, c'est-à-dire le côté un peu patoisant, excessif, qui disait à l'époque, alors Gaston Miron a permis que l'on arrête de se quereller en disant, pendant qu'on se demande si on va dire joual, donc d'utiliser le joual, cette langue un peu anglicisée, etc., ou le cheval à la française, pendant ce temps-là, c'est le mot horse qui passe. Alors j'ai trouvé quand même cette formule très belle, si vous voulez, et je crois que nous avons vraiment un combat qui est un combat de la générosité et du débat qui est extrêmement important véritablement à mener. Et alors, oui, vous m'avez posé une question, pourquoi cet optimisme ? Bien, c'est très simple, c'est que non seulement si je suis un militant du français, je suis un combattant du français, c'est-à-dire un homme de terrain. Et j'ai connu donc tout ce très beau peuple du Québec, notre peuple historique, si vous voulez, qui a quitté la France, etc. Et étant un homme de terrain, J'ai pu voir au fil des années, véritablement, les améliorations. C'est-à-dire que les Québécois qui étaient littéralement dominés par les anglophones à la fin des années 60, début des années 70, ont pris en main leur sort. Et aujourd'hui, c'est un peuple qui s'exprime, qui est dirigé en français, où le français est une langue. Donc, il y a une reconquête du français là-bas. Donc, pour moi, c'était une source d'optimisme formidable. Et la plupart de ceux qui gémissent sur le français sont des gens, pas tous, mais la plupart, soit ils ont raison parce qu'il y a des situations qui sont mauvaises, par exemple des années 80, 90, 70, comme l'intrusion excessive de l'anglais, soit en Europe, soit en France même, sur les Champs-Élysées, c'est un peu intolérable, il faut le reconnaître. Et c'est même dommageable, alors que nous sommes la première destination touristique mondiale. Donc c'est-à-dire qu'on vient ici pour du français, ils n'attendent pas seulement que de l'anglais. Mais, si vous voulez, je pense que ceux qui gémissent sont souvent des gens, pas toujours, hein, essayons d'être nuancés, mais ce sont des gens souvent qui ne connaissent pas la réalité des choses, qui ne connaissent pas le terrain, ou alors qui ont besoin de subventions, et ça c'est un autre aspect, où on dit que tout va mal pour recevoir quelque chose. Et ça c'est une approche qui a longtemps prévalu, où on sous-estime le rayonnement du français pour mieux essayer d'obtenir de certains ministères des sous. Mais comme il y en a beaucoup moins aujourd'hui, évidemment ces gens-là gémissent moins parce qu'ils ne peuvent plus recevoir. Vous voyez, c'est un peu complet. Mais en fait, la réalité des choses, le français ne va... Je reprendrai le titre de cet article que j'ai donné à Valeur Actuelle, « Le français ne va pas si mal ». Et il va bien dans certains endroits, mais le dynamisme, nous Français, nous ne sommes pas assez dynamiques pour offrir cette langue et ses richesses pour vraiment... Nous ne l'aimons pas assez. Et ça, c'est vrai.
Hormis le Québec, où vous dites qu'une reconquête sur l'anglais a permis à la langue française de mieux s'y épanouir, quels sont les points où le français se porte vraiment bien, où il marque des points précisément ?
Mais écoutez, tout simplement, dans l'ensemble des pays, si vous regardez le chiffre de ceux qui connaissent le français, qui parlent le français, qui apprennent le français depuis 1970, les statistiques ont énormément évolué de façon positive. Alors, il faudrait prendre chaque espace. Ben, prenons par exemple un exemple, l'Asie. Bon, c'est plus loin, ce n'est pas l'Afrique qui est si proche. Prenez en Asie. En Asie, nous avions avant... l'Indochine, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, etc., où il y a des gens qui parlaient le français. Ça s'est vraiment un peu écoulé. On essaie maintenant de reprendre. Par contre, au Japon, pays remarquable pour ses cultures, sa culture, mais au Japon, vous avez, que je ne dise pas de bêtises, vous avez 3000 professeurs de français, 3000 professeurs de français pour 200 000 étudiants à l'université. Des centaines de milliers de personnes écoutent les émissions en français. Donc, au Japon, qui est quand même au bout du monde par rapport à nous, le français est quelque chose d'extrêmement apprécié, presque plus qu'en Turquie.
Alors que l'anglais a failli devenir langue nationale au Japon.
Absolument. Mais justement, le français, c'est toujours cette langue non utilitariste, de prestige, de culture. Et ça, c'est quelque chose de très important.
La première langue choisie.
C'est la première... Voilà. Je crois que vous demandez à des jeunes, beaucoup de femmes, vous savez, souvent la culture passe par les femmes dans bien des familles, mais pas toujours, mais beaucoup de femmes demandent quelle est la langue que vous aimeriez apprendre si vous aviez la possibilité de le faire. Le français vient quasiment toujours en premier. Alors ça, c'est-à-dire que c'est le libre choix. L'anglais, bah oui, l'anglais c'est fonctionnel, c'est le globish, c'est... Non mais l'anglais reste une très belle langue, mais... Pour beaucoup, c'est utilitariste, c'est fonctionnel, si vous voulez. Mais le français est toujours la langue de référence, de prestige, de culture, de rayonnement. Et on parlait du Japon, on pourrait parler de la Corée, on parle de la Chine où le français a été quand même pas mal éradiqué sous les communistes. Si vous voulez, nous avons, ce qui est assez curieux, c'est que nous restons en deuxième position dans le monde, alors que tout ce qui était communiste, sauf exception, c'était un peu joué contre le français. Pensez en Algérie, pensez dans bien d'autres pays, les pays de l'Est.
On parlait quand même français dans les pays de l'Est.
On parlait, mais on parlait encore beaucoup plus français qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça reprend.
Aujourd'hui,
mais
ça reprend.
Ça reprend.
Il y a eu un trou pendant 10 ans.
Ah, plus que ça.
Depuis la chute du mur, quand même.
C'est-à-dire que non. Vous avez
l'anglais a fait une intrusion quand même dans les pays de l'Est.
Vous avez eu deux trous, si vous me permettez. C'était à partir de 1940. parce que toute l'élite, oui. En Pologne, Hongrie, toute l'élite francophile a été décimée. Puis, le français est resté stagnant pendant 40 ans, si vous voulez, etc. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a eu ensuite la chute du mur de Berlin. Et là, le russe en perte de vitesse et l'anglais qui arrive à toute vitesse.
Mais alors, et maintenant, le français qui repousse sur tout ça.
Tout à fait. Prenez le cas de la Roumanie. Alors, c'est intéressant.
Bientôt membre de l'Union européenne.
Tout à fait. J'ai écrit un chapitre dans un livre qui s'appelle « Francophonie et dialogue des cultures » sur la Roumanie. En Roumanie, à peu près 10% des gens parlent l'anglais, contre 20% minimum pour le français. Donc, vous voyez, le français double. Mais 80% des journalistes roumains, c'était ceux des statistiques qui datent d'il y a 2 ans, 80% des journalistes roumains défendaient l'univers en anglais, etc., montrant le dynamisme, etc. Donc, si vous voulez, les Anglo-Américains ont quand même des techniques formidables. Ils jouent sur les médias, donc sur la publicité. Parce qu'un jour, regardez en Argentine, nous passons d'un pays à l'autre. En Argentine, un jour dans les années 50, quelqu'un a dit « Mais en fait, le français, ça sert à quoi ?» Ah, alors ça, c'est vrai que c'est une grande question, le français, ça sert à quoi ? N'empêche que dans le domaine de la médecine, dans le domaine des mathématiques, dans le domaine scientifique, le français, ça sert à beaucoup de choses.
Oui, mais les brevets sont de plus en plus en anglais aussi. Hein.
Ah, c'est parce que là, évidemment, c'est une, si vous voulez, c'est une stratégie anglo-américaine qui, il faut bien le reconnaître, est servie, est appuyée par certains de nos amis, enfin, certains de nos compatriotes. Et souvenez-vous de l'affaire Messier, qui...
Les revues scientifiques.
Les revues scientifiques. Nous ne savons pas comment réagir. Nous n'avons pas les bonnes réactions, si vous voulez. Et évidemment, là, nous avons beaucoup perdu de terrain.
Alors
ça, c'est un aspect négatif, c'est vrai.
Voilà, je reviens justement sur cet aspect que vous avez souligné. D'un côté, alors, pour prendre l'exemple du Japon, le français qui se porte bien parce que première langue choisie par les femmes. Bon, on imagine aussi l'intérêt que les Japonais peuvent porter pour la culture française, pour Paris, bien sûr, où on les voit en masse. Mais... n'est-ce pas aussi le travers d'avoir un français réduit à une langue de salon ? Alors que précisément dans le monde des affaires, dans le monde commercial, scientifique, bah voilà, dès qu'il s'agit d'être efficace et d'être dans le concret et d'être en contact avec l'argent...
Bon,
là,
alors là, vous avez tout à fait raison, et c'est un sujet qui est vraiment très délicat. Et je me souviens encore de cette date de 1987 où j'avais écrit « La francophonie économique », si vous voulez. Bon, et ça m'avait un petit peu quand même turlupiné. Donc, moi, l'homme de culture, je faisais un peu le boulot des autres à cette époque ou de quelques personnes qui auraient pu le faire mieux que moi, etc. Ce que je veux dire, c'est que n'oublions tout de même pas que 77% des entreprises françaises considèrent que le français est vraiment utile dans leur démarche commerciale. Donc, c'est quand même pas négligeable, 77%. 7% des entreprises françaises, le chiffre évolue évidemment au fur et à mesure que les années passent. 7% des entreprises françaises, souvent sont des grosses d'ailleurs, il faut bien le préciser, pour le 7%, considèrent que l'anglais, c'est vraiment, ça leur permet de pénétrer. Alors, moi, je crois que dans le domaine des affaires, il faut être pragmatique. C'est-à-dire... à la fois, l'anglais est une carte de visite importante. C'est indéniable, il est important de parler anglais. C'est, n'oublions pas, Maurice Druon de l'Académie française qui dit « Si l'anglais est une nécessité, si l'anglais est une nécessité, je crois qu'en effet l'anglais est une nécessité aujourd'hui, dans le monde notamment des affaires, parce que ça simplifie les choses. Pourquoi pas ? Mais le français, disait Maurice Druon, demeurera à jamais un privilège. » Donc la formule est quand même très belle. Elle est, bon, alors, je reviens aux questions économiques. Bon, moi, je crois que la carte de l'anglais est une bonne carte. Mais attention, il vaut mieux parler chinois aux chinois que anglais aux chinois. Il vaut mieux parler japonais aux japonais qu'anglais aux japonais. Donc, je pense que l'erreur, c'est le tout anglais.
Et vaut-il mieux leur parler français ?
Alors, non, moi, je dirais, il vaut mieux leur parler japonais chez eux et qu'eux nous parlent français chez nous. C'est une question de politesse. Donc là, ça rejoint le salon. Je crois qu'il faut toujours être respectueux des autres. Et je crois que la culture française, c'est Senghor qui disait ça, c'est une culture de la courtoisie. Eh bien, moi, je crois, messieurs les Anglais, tirer les premiers. Certes, il vaut mieux qu'il y ait des Français qui restent après les tirs, mais je pense qu'il faut toujours être courtois. Et ça, c'est une qualité, une très grande qualité française. Alors, non, mais revenons à ces questions de structuration du monde des affaires. Je crois que c'est très important. L'anglais est une carte, jouons-la quand on peut la jouer, notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc., etc. Dans certains pays nordiques, quand on ne connaît pas leur langue. Mais le français est une langue formidable. Regardez, tout ce qui est luxe, eh bien le français reste tout à fait opérationnel. Donc, nous avons tendance, ce n'est pas en courbant les chines qu'on se relèvera plus vite. Donc moi, je crois qu'il faut au contraire avoir une tactique d'approche. L'anglais plus les autres langues et sans jamais oublier le français. Donc c'est-à-dire que je dis moi aux entreprises, qu'est-ce que votre français peut vous apporter de plus ? Eh bien, vous apercevez que tous les chefs d'entreprise qui n'ont jamais oublié les qualités du français l'utilisent et sont servis, font des affaires encore mieux parce qu'ils apportent ce qu'on dit en anglais, the French touch.
Mais alors, si jamais ils ne parlent pas français, leur interlocuteur, à quoi ça sert ?
Ah ben, c'est-à-dire qu'il faut justement... Alors, non, mais alors là, ce n'est pas le rôle des hommes d'affaires. Oh, je crois, vous savez que... le nombre de gens qui parlent le français sur Terre est considérable, moins dans le monde des affaires que dans le monde de la culture. Mais vous apercevez que même dans le monde des affaires, vous avez énormément de gens qui connaissent un peu le français. Mais bon, je crois que si vous voulez, on ne peut pas être excellent partout.
Mais enfin, ça marche, il y a des résultats.
Ah, les résultats, écoutez, beaucoup d'entreprises ne lâchent pas du tout la langue française parce qu'elles savent que la langue française est un plus. Mais attendez, vous n'allez pas vendre des produits français mieux en anglais qu'en français. Oui, à un certain niveau, mais pas à un niveau supérieur. Et je crois, vous savez, n'oubliez pas le côté qualitatif du français. Le côté qualitatif est là.
Axel Mauget, on vous retrouve dans un instant.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Voilà, retour avec Axel Mauget. On prend beaucoup de plaisir à se promener comme ça sur la planète francophone. Une planète francophone qu'il affectionne tout particulièrement avec Désir francophone, Désir francophile, aux éditions Lettres du Monde. Axel Mauget, vous venez de recevoir un grand prix de l'Académie française, la médaille de Vermeil pour l'ensemble de votre œuvre.
Juste un mot pour ce très beau cadeau de l'Académie française, pour dire que la médaille de Vermeil, j'ai été tout à fait ébloui par cette belle médaille de Vermeil. C'est magnifique, une médaille de Vermeil. Ça, vous voyez, c'est l'art français, c'est fait par la Monnaie de Paris, c'est unique au monde.
Juste à côté de chez
juste
nous.
À côté de chez nous, de chez nous. Et cette médaille de Vermeil, c'est de l'argent recouvert d'or. Si vous la regardez, je vous la montrerai avec grand plaisir un jour, c'est une véritable merveille artistique. Avec mon épouse, nous la regardons souvent, c'est vraiment beau. Et vous voyez, on m'a fait un cadeau de beauté.
Le génie français.
Je pense, sans vouloir être arrogant, c'est vrai.
Alors, je disais à l'instant que vous m'aviez redonné quelque peu de l'espoir. D'abord parce que bon, le français est toujours la deuxième langue parlée dans le monde. Que le monde des affaires, mine de rien, parle encore à 20% français et l'anglais 40%. Donc, voilà, pour ceux qui désespèrent, on peut le dire, la partie n'est pas perdue et que d'abord, il faut commencer par aimer notre langue. Ça serait la meilleure façon de lui rendre service et donc de ne pas gémir constamment sur l'état du français, l'état présumé. Parce que c'est très difficile d'analyser le français et la francophonie en réalité.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Et si vous voulez, ceux qui gémissent n'ont dans l'ensemble, et en fait c'est un peu leur problème, ils n'ont pas une vue d'ensemble.
Ils n'ont pas les outils statistiques forcément ?
Non. Ils en ont, mais ils n'ont pas forcément les plus fiables, les plus récents, etc. Ça évolue quand même très vite. Et surtout, on ne sait pas forcément où les trouver.
Je prends un exemple, si vous permettez
oui,
bien.
Je vous en prie, bien sûr.
Quand on voit une alliance française qui réunit énormément de monde quelque part dans un pays, souvent, alors sur le plan statistique, on va se dire, super, il y a des Français qui viennent à l'alliance française. Mais bien souvent, c'est parce qu'un lycée français du coin ferme, que des classes de français ferment.
Oui, si vous voulez, tout ça... Non, mais là, vous avez tout à fait raison. Mais tout ça est très conjoncturel. Mais n'oublions pas que... Alors, je dirais un peu que le français, ça, c'est quelque chose d'assez assez extraordinaire. C'est un peu comme les champignons. Il y en a un qui est cueilli, il y en a un autre qui ressurgit. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Par exemple, saviez-vous, moi je ne savais pas il y a encore un certain temps, qu'il y a une association Brassens, pour ne citer que celle-là, dans toute l'Amérique du Sud. C'est un fou de Brassens. Alors qu'on entend plus Brassens, je crois, paraît-il, un peu en Amérique du Sud qu'en France même. Alors, c'est assez extraordinaire. Mais si vous voulez, pour cette bataille du français, n'oublions pas, on dit que le français est la deuxième langue la plus parlée. Oui, sur l'ensemble de la planète. Car en locuteur, nous sommes, comme les Japonais, au 9e ou 10e rang. Donc le français n'est pas en locuteur au deuxième rang, parce que c'est les Hindous, c'est les Chinois, etc., au premier rang. Mais en tant qu'ensemble réparti sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire en tant que rayonnement, le français est réellement au deuxième rang. Alors, c'est quand même remarquable.
Mais mesurer ce rayonnement est difficile.
Non, pas tant que ça. Par contre, là, on peut reprocher au pouvoir public, soyons concrets, de ne pas faire ce qu'il devrait faire parfois. Prenez dans le cas de l'Europe. Alors l'Europe, ça nous concerne énormément. La bataille d'ailleurs du français se joue d'abord en Europe, moi je crois, parce que c'est quand même le berceau, la France, etc. Même si elle a des points forts ailleurs, etc. Nous, depuis 40 ans, 50 ans, n'avons même pas de statistiques fiables. Elles n'existent pas sur les francophiles européens, par exemple. Et c'est-à-dire que je serais très étonné que le ministre concerné, donc le ministère des Affaires étrangères, pour parler franc, et ce n'est pas de sa faute, ni celui de son prédécesseur, c'est qu'on ne l'a pas fait. Ils n'ont pas sur le tableau les listes tout à fait privilégiées, confidentielles, des meilleurs francophiles européens, ce qui sont des centaines, voire des milliers. Ça, moi, je trouve ça stupéfiant. Si jamais ils l'ont, alors je les mets au défi de me les montrer, mais ils se privent d'un instrument de travail. Vous voyez, ça, les Anglo-Américains, eux...
Ils mettraient des chasseurs de tête sur le coup.
Ah, tout à fait. Croyez-le ou pas, je pense que les universités américaines, je parle des universités seulement, les universités américaines possèdent dans leur bibliothèque beaucoup plus mes ouvrages qu'en France même. Enfin, c'est mal dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de mes ouvrages dans les grandes bibliothèques américaines que dans les grandes bibliothèques des universités françaises.
Ce qui est quand même affligeant.
C'est assez étonnant. Encore que je m'aperçois que l'avenir du français dans le monde, par exemple, qui est un livre que j'ai écrit, un de mes triptyques, il n'y a pas très très longtemps, se trouve dans, je l'ai découvert, je crois, hier, se trouve dans, à l'Institut français de Pékin. Donc, ça chemine, si vous voulez. Ce qui est merveilleux, c'est le cheminement. Je me souviens, je ne citerai bien sûr pas son nom, mais je fais un peu comme Giscard d'Estaing ces derniers temps, mais je me souviens d'un patron de la francophonie, alors je ne citerai absolument pas son nom, qui n'avait même pas de bibliothèque francophone dans son bureau, et quand il a été nommé, heureusement que quelqu'un me connaissait et je lui ai monté sa bibliothèque. Donc je tairai totalement le nom. Mais c'est un peu stupéfiant de nommer quand même quelqu'un qui n'a même pas une bibliothèque francophone. Ça, c'est les lois de l'illustration. Mais pourquoi pas ? Mais enfin, c'est un peu... Ça m'a, à l'époque, il y a longtemps, ça m'a un peu choqué quand même, etc.
On en vient à cette question, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, les anglo-saxons sont portés par une stratégie.
Tout à fait.
Utilitariste, que l'on peut décrier si l'on le souhaite, mais... Il y a une stratégie, une vision. La France, elle...
Une vision, non, mais une stratégie, oui.
Une vision même commerciale,
oui,
je dirais,
commercial,
simplement
voilà,
utilitaire,
d'accord.
Mercantile.
Tout à fait.
La France, elle, apparemment, en a moins. Est-ce qu'on peut imaginer que le français maintienne ses positions, bien que la France continue à négliger sa propre langue ? Autrement dit, est-ce que le rayonnement du français ne dépend pas du rayonnement de la France ?
Alors là, c'est une question extrêmement importante que vous posez, qui est vraiment la question, je dirais. C'est qu'en effet... Nous sommes là, moi je suis plutôt optimiste parce que, d'abord parce qu'on travaille, vous savez, quand on est sur un court de tennis, on se bat. Moi, c'est mon cas et le cas de plusieurs de mes amis. Cette question est fondamentale parce qu'aujourd'hui, en 2006, nos positions, nous avons quand même une aura mondiale. L'affaire d'Irak a montré quand même, malgré les maladresses, que nous avions quand même une certaine vision. Nous avons de très bons orientalistes, etc. Et notre position aujourd'hui est forte. Mais alors, attention, si nous ne mettons pas sur pied dans les 5-6 ans qui viennent, voire même avant, une stratégie extrêmement forte, on risque d'être laminé par ce monde qui est quand même très utilitariste. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que les Américains qui ont un sens de l'histoire que certains croient limité, ce qui est peut-être un peu vrai, je pense à Umberto Eco qui disait cela, encore qu'il se trompe en partie, Umberto Eco, parce que les Américains ont par exemple 900 historiens qui s'intéressent à la France et plus d'historiens qui travaillent sur la Révolution française que de Français qui, d'historiens français qui travaillent sur la Révolution française. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais, petite digression importante, mais attention, il ne faut pas croire qu'en accablant nos alliés américains, il faille absolument se tourner vers la Chine, qui a une histoire millénaire, etc. Je pense qu'attention à nous, et je crois que nous essayons quand même de jouer, c'est à nous d'apporter une stratégie fine dans un avenir, un devenir extrêmement complexe qui nous attend. Ça, il faut
mais attendez, vous donnez conscient. Des délais extrêmement courts, 5-6 ans. C'est demain.
Oui, mais si, c'est tout à fait demain. Moi, je crois que ce n'est pas dans 30 ans qu'il faudra.
C'est-à-dire, la France aujourd'hui est bien placée. Le sera-t-elle dans 4-5 ans? Tout dépend de nous. Et la France, n'oublions pas, la France est le pays de Talleyrand quand même, et le pays de très grands autres personnages. Donc, reprenons l'esprit de Talleyrand, qui lui le faisait au sein de l'Europe, mais reprenons cet esprit au sein de la géopolitique mondiale. Et je crois que là, attention, l'Inde a une force aussi considérable, la Chine, d'autres pays. Évidemment, il y a des oppositions très nettes. Mais la France doit toujours être ce pays à la fois léger et profond, parce que c'est un pays léger et profond, qui doit absolument avoir son rôle à jouer. Alors aujourd'hui, il le joue. Pas de façon parfaite, bien entendu, loin de là, mais il le joue. Quel va être, par exemple, le prochain président de la République? Bon, je ne suis pas du tout devin, mais là, vous voyez, le prochain devra faire face à une situation mondiale qui peut évoluer très vite, même dans des sens négatifs, c'est-à-dire guerre ou autre. Donc, la France, justement, la francophonie, doit offrir un message de paix, de dialogue, alors sans naïveté, de dialogue des cultures et de compréhension entre les peuples. Et je crois que nos amis américains ont commis une erreur considérable en n'écoutant pas la France lors de l'affaire de l'Irak. Là, ça a été une très grosse erreur.
Et l'éloquence de Dominique de Villepin.
Oui, je pense que Dominique de Villepin, dans son discours, a été à la hauteur de ce que la France pouvait espérer. Vous avez raison.
Alors, plusieurs points, si vous le voulez bien, Axel Mauget. D'abord, l'Union européenne, pour que la France fasse entendre sa voix, la voix du français. Pour le français, l'Union européenne, c'est plutôt un atout ou plutôt un obstacle?
Alors là,
est-ce que la France a les moyens de sa politique? Est-ce qu'elle n'est pas amenée à décider à 25, 27 maintenant?
Est-ce que l'Europe a les moyens de sa politique aussi? Moi, je crois que là, en effet, nous arrivons... C'est très difficile, je ne suis pas du tout un spécialiste d'Europe. Moi, je crois que l'Europe... Je suis européen. J'ai toujours adoré Stéphane Zweig, j'ai toujours adoré Denis de Rougemont. Donc, je suis européen et je suis d'abord français, mais nous sommes européens. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'Europe qu'on nous sert est-elle agréable à manger, si vous voulez, etc. Peut-on la digérer? Et je crois que moi, je ne suis pas sûr. Il faut faire l'Europe, il faut continuer à faire l'Europe. Je ne suis pas sûr que le genre de modèle qu'on nous offre aujourd'hui soit très appétissant.
Mais pour le français, vous pensez que...
Le français, la bataille
du français...
Que
ça sera un atout un tremplin? L'Europe est un tremplin pour le français?
L'Europe est un tremplin pour les Français. Si les Français continuent à faire entendre leur voix de façon et de proposer, de faire des propositions importantes, et dans la mesure même où nous trouvons suffisamment d'alliés en Europe même. C'est à nous de convaincre et de séduire. Et je crois que ce phénomène de séduction est quand même très important, sans sombrer dans le tout image. Je pense que, vous savez, c'est un monde quand même qui n'est pas facile, hein. Reconnaissons-le, je n'ai pas les réponses à tout, comme tout un chacun. C'est un monde très utilitariste, où justement, c'est un monde, l'Europe manque de culture, et si l'Europe avait plus de culture, je pense que l'Europe serait déjà beaucoup plus avancée, et je crois que la France peut apporter, avec d'autres pays, ce surcroît de culture qui permettra, qui permettrait à l'Europe d'avancer. Donc, moi je dis oui à la France dans l'Europe, mais sans oublier le domaine culturel qui est fondamental. C'est le partage des idées, c'est le partage des valeurs, c'est le partage, la connaissance de l'autre, c'est fondamental. Et même, comme a dit Dominique Volton, il faut même apprendre à accepter ce que l'on ne comprend pas de l'autre, si vous voulez. L'autre, parfois, est incompréhensible. Alors, mais allons vers cet incompréhensible pour essayer justement de l'éclairer. Moi, je crois à l'Europe, mais une Europe beaucoup plus culturelle. Elle est trop petite politique. C'est de la petite politique dans l'ensemble. Économique, ça a plutôt bien marché, mais on a beaucoup trop oublié l'Europe culturelle. Et je crois, je vais vous donner un exemple. Je crois que l'oubli de cette Europe culturelle, c'est ce qui handicape l'Europe d'aujourd'hui. Un exemple. Les Japonais ont 3000 professeurs de français et 200 000 étudiants qui suivent à l'université. La Turquie a 230 professeurs d'université qui enseignent le français et même pas 20 000 étudiants. Quand vous pensez à la sublime porte qui a été notre allié pendant un certain temps avec qui nous avions une relation privilégiée, même s'il y a beaucoup, beaucoup de francophiles en Turquie, regardez la différence entre le Japon, la Turquie c'est 70 millions d'habitants, le Japon c'est 110 millions, 115 millions. Regardez la différence entre 230, quand je dis 3000, maintenant c'est pas plutôt 2000, enfin c'est quasiment du 10%. Eh bien, vous comprenez par ces chiffres statistiques qui ne sont jamais exploités, où est notre rayonnement et pourquoi il y a entre la Turquie et la France une faiblesse incommensurable qui est culturelle. Même si je connais de nombreux Turcs francophones qui aiment la France, et nous le rendons bien entendu, mais le déficit, il est là, comme dans les Balkans. Il est là, le déficit.
Est-ce que le dialogue des cultures, pour en terminer avec ce point, est-ce que le dialogue des cultures n'a pas régressé avec le nouveau partage du monde entre le terrorisme d'un côté et la suprématie américaine de l'autre? Est-ce que la marge de manœuvre les deux n'est pas de plus en plus étroite?
Ah oui, c'est une autre question importante. La marge de manœuvre est étroite et je vois, si vous voulez, nous avons, comme Jean Lebon, il faut se garder à droite et à gauche, c'est-à-dire il faut trop d'américanisation en France, je ne dis pas de modernisation, n'est pas une bonne chose, malgré les liens extrêmement forts que nous avons et le respect que nous avons pour ce pays, qui nous a aidés pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, etc. Mais trop d'américanisation n'est pas une bonne chose parce que notre esprit français est différent. Le deuxième point, et vous parlez d'islamisme, le deuxième point, c'est le côté soviétisation. N'oublions pas quand même qu'en France, il y a longtemps eu ce côté soviétique, marxiste, etc., qui aussi a causé de gros problèmes à notre pays. Et le troisième danger, c'est l'islamisation. Et je trouve que pour un pays comme la France, qui est un pays de rigueur, de raison, qui l'a longtemps été, si vous voulez, Descartes et compagnie, on a traité bien à la légère ces 40 dernières années ce problème d'un islamisme rampant et qui est destructeur. Par exemple, que l'on ose s'attaquer à Voltaire, alors là, véritablement, moi, me rend, je veux dire, c'est intolérable, si vous voulez, de s'attaquer à Voltaire. Voltaire qui trouvait que parler autour d'une table, c'était quelque chose d'absolument merveilleux. Donc, alors, entre la soviétisation, si vous voulez, le côté marxiste, bon, évidemment un peu simpliste, là j'ai pas le temps de développer, qui a causé bien des torts, et bien entendu s'il y a eu des conquêtes sociales, on ne peut que s'en réjouir, mais après les conquêtes sociales, il y a eu des tueries épouvantables. L'islamisation qui aujourd'hui prend une dimension inquiétante, je préfère encore la parole du grand président Thomas Jefferson. Chaque homme qui aime la liberté a deux pays, son propre pays et la France, il ne faut pas l'oublier. Et n'oublions pas l'importance aux États-Unis, pourquoi cette relation entre la France et les États-Unis, là je ne parle plus d'américanisation, c'est que nous avons eu 20 présidents de la République américaine qui ont des origines huguenotes et qui avaient beaucoup chez eux, il y avait quand même, malgré le fait que leurs ancêtres aient dû quitter la France, énormément de francophilie. Beaucoup de choses que l'on ne sait pas.
Et bien voilà, francophilie, justement, ce sera votre dernier mot, Axel Mauget. Il vous tient à cœur, on s'en est aperçu.
Je l'assume.
Désir francophone, désir francophile aux éditions Lettres du Monde. Si vous êtes venu, c'est bien sûr pour nous parler du français, mais aussi parce que vous avez reçu la médaille vermeille, une décoration de l'Académie française. Pour l'ensemble de votre œuvre au service du français, je rappelle que vous êtes universitaire, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la question et que votre prochain essai, ce sera justement La bataille du français, c'est ça, hein ? Aux éditions Lettres du Monde également ?
Non, pas du tout, aux éditions Vuibert,
et voilà. Ça sera pour bientôt.
Tout à fait, c'est prévu pour le mois de janvier.
Et ça sera du français, une histoire du français, des années 60 à aujourd'hui.
La bataille du français de 1960 à aujourd'hui. Donc c'est une synthèse historique qui n'a jamais été faite à ma connaissance.
On en reparlera.
Merci beaucoup.
Merci.